Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Monnaie Libre, aujourd'hui avec un invité fameux de Monnaie Libre qui nous rejoint, c'est Thierry Crouzet. Salut Thierry.
Salut.
Alors Thierry Crouzet avec ton blog, Crouzet, hein, tout simplement Crouzet.com. Hein.
Ouais, T-Crouzet.com.
T-Crouzet, ouais, parce que Thierry, évidemment, T-Crouzet.com. Donc auteur, ingénieur... compétences. Alors tu t'intéresses aussi beaucoup aux ruptures technologiques, hein, c'est aussi ton dada.
Ouais.
Alors, on va revenir bien sûr sur ces thèmes-là, parce que dans l'émission aujourd'hui, on va traiter avec toi un sujet qui je pense est important et qui va toucher la monnaie, bien qu'on va bien sûr parler d'autres domaines qui sont liés, c'est bien sûr la notion de paradigme et de changement de paradigme. Alors, toi, tu connais un peu cette notion, hein, on l'avait abordé déjà, puisqu'on avait abordé, si tu te rappelles bien, un sujet où tu avais parlé de Jardin d'Éden.
Ouais.
Hein, je sais plus quelle émission c'était exactement, mais tu peux nous rappeler ce que c'était cette notion de Jardin d'Éden ?
Alors, Jardin d'Éden, c'est dans des simulations. Par exemple, le jeu de la vie. Le jeu de la vie, c'est un jeu, un automate cellulaire où il y a des cellules qui se mangent les unes et les autres dans un espace en 2D ou ça peut être en 3D, etc. Donc, quand on fait tourner la simulation à partir d'une position de départ, il y a des configurations dans lesquelles jamais on peut arriver.
Voilà.
Donc, c'est des situations qui sont impossibles dans le jeu. Mais on peut les conceptualiser, les inventer vraiment avec son cerveau et faire démarrer des simulations à partir de là. Donc c'est-à-dire c'est des points de naissance, mais pas de mort possible. Donc c'est assez intéressant.
Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement on a une position donnée avec des règles, et depuis cette position donnée avec cette règle, il y a des positions qui sont inatteignables.
Voilà.
Mais pourtant, si on met ces positions au départ, donc on change la position de départ au final, elles tournent aussi bien avec les règles du jeu.
Ouais.
Alors qu'elles ne sont pas atteignables si on gardait que la position de départ. Donc ça a un lien avec la notion de paradigme, on l'abordera peut-être un peu tout à l'heure quand on parlera aussi de changement de paradigme dans la logique et dans l'informatique. Mais on va tout d'abord dans cette première partie parler des changements de paradigme dans l'histoire. Alors forcément j'ai fait appel à toi parce que tu as d'abord tu as creusé cette notion de paradigme et je pense que tu l'as saisi plutôt bien et tu as fait un livre sur un très très grand homme de l'Antiquité qui lui a proposé un changement de paradigme et est allé même jusqu'à faire des expériences pour essayer d'en donner des paramètres.
Hein. Ouais, donc tu fais évoquer Eratosthène.
Ouais.
Alors Eratosthène, il vit troisième siècle avant Jésus-Christ, et il vit pratiquement 91, 92 ans, on sait qu'il se suicide hein, au tout début du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est un scientifique, un poète, un philosophe, il a tout fait, et qui a traversé ce siècle-là, le troisième siècle avant Jésus-Christ, et c'est un siècle assez particulier parce qu'il se situe après la mort d'Alexandre le Grand, et avant que Rome devienne ultra dominant sur le monde antique. Donc on est, en gros, c'est la fin de la Grèce avec Alexandre le Grand, et avant le début de Rome. Donc c'est une époque déjà de transition entre ces deux époques du monde, et c'est une époque qui est très prospère au niveau scientifique, c'est le point culminant de la pensée grecque, en fait, au niveau scientifique. Donc il vit à cette époque-là, et il vit à Athènes la moitié de sa vie, l'autre moitié en Alexandrie.
Ouais, d'accord.
Donc voilà.
Et donc alors lui il va carrément postuler la Terre est ronde et je vais pouvoir en calculer son rayon.
Voilà, donc l'idée que la Terre est ronde, elle est déjà répandue lui quand il naît. Donc lui il naît à peu près en 274, 271 suivant les estimations avant Jésus-Christ, et quand il naît la Terre est déjà supposée ronde. Il y a eu plusieurs propositions de démonstration, il y a eu des démonstrations purement logiques. Et puis il y a eu des démonstrations un peu avec des observations, notamment Aristote qui observe que les éclipses, on voit des formes rondes, des choses comme ça, quand les éclipses lunaires, etc. Donc il suppose que la Terre est ronde parce qu'il voit que la Lune est ronde, que le Soleil est rond. Donc par une série d'observations, ils savent que les philosophes ont compris que la Terre était ronde. Il faut bien voir, c'est les philosophes et pas le commun des mortels. C'est-à-dire pour la plupart des gens à cette époque-là, il suppose que le monde est petit et plat. Donc ça, c'est vraiment l'hypothèse. Le monde est petit et plat. Et une façon de se rendre compte de ça, c'était par exemple, quand ils voyageaient du nord vers le sud ou du sud vers le nord, ils voyaient bien qu'à midi, les ombres n'avaient pas la même longueur. Et donc, comme ils imaginaient que le monde était plat, ils imaginaient qu'ils plantaient des piquets à différents endroits, et en fonction des ombres, ils les prolongeaient vers le soleil, et ça leur permettait de calculer la taille du soleil. Et en calculant la taille du soleil comme ça, ils arrivaient à avoir un soleil de 60 km à peu près. Donc le soleil était censé être à 60 km de la Terre et avoir un diamètre de 60 km. Donc ils vivaient dans un monde très petit, avec un petit soleil situé pas très loin, et le monde était plat et petit. Et ça, c'était ça l'esprit des Grecs à cette époque. Alors, bien sûr, les philosophes étaient allés un peu plus loin. Et quand Ératosthène est gamin, il y a Aristarque de Samos, lui qui fait la même calcul avec des piquets, etc. Mais il pense que le soleil est immense et situé très très loin de la Terre. Donc déjà, il se passe quelque chose d'important avec Aristarque de Samos. Il comprend que le soleil est très grand, très loin de la Terre, et Aristarque de Samos, il fait déjà une proposition de changement de paradigme énorme. Il dit, Aristarque, que le soleil est tellement gros que c'est pas lui à tourner autour de la Terre, c'est la Terre à tourner autour du soleil. Donc là, on est au tout début du 3e siècle avant Jésus-Christ, et déjà, il y a quelqu'un qui pense ce qui va se passer 1800 ans plus tard, c'est-à-dire la révolution copernicienne.
Oui.
Donc on a déjà quelqu'un qui va penser le monde, notre monde à nous d'aujourd'hui. Le problème d'Aristarque de Samos, c'est qu'il n'arrive pas à convaincre. Il n'arrive pas à convaincre, et notamment pour une raison, c'est l'erreur de parallaxe. Alors quand on se déplace, tout le monde sait, quand on se déplace sur une route, il y a des montagnes, on voit bien qu'il y a des sommets qui apparaissent, d'autres qui disparaissent. Donc quand on change d'angle, il y a des choses qu'on voit, des choses qui disparaissent, c'est assez normal. Et donc ils se sont dit, bon ok, mais si le soleil est très loin, et les étoiles encore plus loin, ça voudrait dire que quand on se déplace, nous par exemple en bateau, le ciel devrait changer de configuration. Il y a des étoiles qui devraient passer devant d'autres, etc. Mmh. Et bien sûr, quand on regarde le ciel à l'œil nu, c'est impossible de voir ça.
Oui.
Et ça, il a fallu attendre le 19e pour qu'on découvre l'erreur de parallaxe dans le ciel. Il a fallu attendre d'avoir des télescopes très précis pour avoir la preuve de ce qu'annonçait Aristarque de Samos. Donc là, c'est plus de 2000 ans avant d'avoir la preuve. Et donc, il se passe que la théorie d'Aristarque de Samos, elle ne prend pas. Sauf que Ératosthène, lui, comme il est persuadé que la Terre est ronde, et on lui attribue l'argument du bateau. Donc l'argument du bateau, c'est l'argument classique, quand un bateau s'en va, c'est la coque qui disparaît en premier, puis après c'est le mât, etc.
Oui.
Donc cet argument, on dit que c'est lui qui l'a trouvé, c'est une hypothèse, on n'en sait rien, on n'a aucune source là-dessus, on lui attribue cet argument-là. Donc c'est une preuve, ça, assez irréfutable, que la Terre est ronde, l'argument du bateau.
Oui.
Donc, il sait que la Terre est ronde, et comme il commence à s'intéresser à la géographie, quand il arrive à Alexandrie, il lit beaucoup de livres de voyageurs, etc., il se dit que ça serait bien d'avoir la carte pour pouvoir positionner les lieux les uns par rapport aux autres. Mais pour avoir la carte du monde, et il ne s'y tape pas la dimension de l'ensemble du monde, ça va être difficile de positionner les lieux les uns par rapport aux autres.
Eh oui, bien sûr.
Donc c'est là qu'il finit par trouver une méthode pour calculer le diamètre de la Terre. Et donc ils utilisent les ombres, c'est toujours encore une histoire d'ombres projetées à différentes époques de l'année, différents lieux. Et l'intérêt de la méthode, c'est qu'ils trouvent une valeur qui est la nôtre d'aujourd'hui.
Ouais, c'est ça, voilà.
Il est 40 000 km, donc il fait une erreur de quelques pourcents. La méthode, elle est parfaitement rigoureuse et parfaitement juste.
Et d'ailleurs, on peut dire qu'on l'a refaite, hein, cette méthode, en début d'année. Alors, on n'a pas publié les résultats, mais on a pu retrouver les résultats quand même assez, assez proches.
Hein. Oui, oui. Non, on s'est amusé à le faire tous les deux. Il y a beaucoup d'écoles qui le font en ce moment, de refaire la mesure de la Terre. C'est un projet maintenant éducatif que beaucoup d'écoles font pour recalculer le diamètre de la Terre avec la méthode d'Ératosthène. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Aristarque et Ératosthène, ils se rendent compte de deux choses. C'est l'univers est immense. La Terre est sphérique et on connaît sa dimension. Et ce qui se passe dans l'esprit de ces quelques philosophes qui comprennent ça, Archimède aussi qui est un copain de cette bande-là, on passe d'une image de la Terre, donc d'un monde qui était petit et plat, pour le commun des mortels, à un monde qui est immense, sphérique. Et ça change tout, ça, si on imagine par rapport au commerce, par rapport aux batailles de territoire, à toutes les querelles qu'il pouvait y avoir à l'époque, D'un seul coup, la Grèce, c'est le petit monde de la Grèce, est un point infime pour Ératosthène à la surface du globe.
Et oui.
Et donc, ça, c'est une, dans l'imaginaire, dans la façon de vivre, ça change tout. D'un seul coup, on vit plus du tout dans le même monde. Des querelles de clochers n'ont plus de sens quand on d'un seul coup, tout grandit de façon gigantesque. Donc, voilà ce qui se passe à cette époque-là. Mais, la découverte d'Ératosthène, elle passe pas, en fait. Alors, les philosophes vont accepter l'idée que la Terre est ronde, qu'elle est grande, etc. Mais le monde politique, le monde des hommes, en fait, des hommes, on va dire, la plupart des hommes continuent à vivre comme si le monde était petit et plat.
Oui.
Donc, il n'y a pas d'acceptation de ce changement possible.
Oui, alors ça c'est un point.
Il va falloir attendre très longtemps, il va falloir attendre l'époque de Christophe Colomb.
Oui.
Pour que d'un seul coup, les hommes se placent sur un monde beaucoup plus grand.
Alors ça c'est un point très important qu'il faut souligner donc concernant le changement de paradigme. C'est un premier exemple avec ce Ératosthène, on va en voir un deuxième juste après. C'est ce fait que c'est pas parce que bien sûr quand on dit les hommes savaient déjà à l'époque des Grecs, Ératosthène savait déjà que, où il avait supposé avec de bons arguments que la Terre était ronde, et il avait surtout réussi à calculer son rayon ou son diamètre, c'est pareil. Son diamètre par exemple donc 40 000 km, bon très bien. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que tous les hommes de l'époque le savaient. C'est pas parce que quelques.
De 40 000.
Oui, mais alors souvent, le problème, c'est qu'on croit que parce que certains hommes avaient compris certaines choses il y a à une certaine époque, on confond certains hommes avec tous.
Oui.
Comme si, immédiatement, parce qu'un homme avait compris quelque chose, tous les autres l'avaient compris au même moment. Ce qui, bien sûr, n'est pas du tout conforme à la réalité.
C'est pour ça que moi, j'ai écrit un roman sur la vie d'Ératosthène, parce que c'est une tragédie, en fait. C'est une tragédie. T'as quelqu'un qui comprend des choses qui sont d'une modernité stupéfiante, et en fait, l'histoire n'en veut pas de cette modernité-là. Elle continue sur son ancienne lancée, comme si rien ne s'était passé, jusqu'au point où les hommes, les successeurs d'Ératosthène, sont acharnés à ridiculiser sa pensée et à la faire oublier.
Oui, ça c'est curieux aussi, ça, oui. Oui, ça veut dire que quand même, donc, quelques hommes comprennent ça, ils ont de très bons arguments, ils font des calculs, donc ça donne des informations, ça donne des données. Et ensuite, c'est un peu comme si ça avait été oublié. Ou alors peut-être que il y a une autre possibilité, c'est que cette information a été jalousement gardée secrète aussi. Peut-être que ça peut être un...
Non, dans le cas d'Ératosthène, non, parce qu'on sait par exemple que César, quand il partait en campagne, il avait les textes de la géographie d'Ératosthène, avec les cartes d'Ératosthène. Il y a une carte d'Ératosthène qui a été gravée sur le forum de Rome. Donc c'était pas une information secrète. Mais c'est une information qui n'a pas été digérée, en fait.
Oui.
Elle n'a pas été digérée comme si les hommes n'avaient pas voulu se placer dans un autre espace.
Mais c'était, donc, c'est
ils,
trop...
Ils sont restés dans le monde avec lequel ils étaient familiers. Et au niveau des dieux aussi, il y a des gens qui, dès cette époque-là, ont essayé de remettre en question la foi, etc. Mais non, tout a continué comme avant, comme s'il y avait un refus de changer les règles et de sortir de la tradition, en quelque sorte.
Bon, on voit qu'il y a une inertie, je dirais, à l'intuition. C'est-à-dire que quand on a acquis une certaine forme d'intuition, il n'est pas du tout évident d'en changer, en fait. C'est-à-dire que ce qui paraît intuitif, ce qu'on appelle le soi-disant bon sens, moi je bondis toujours sur ma chaise quand je dis mais c'est le simple bon sens, le bon sens n'existe pas. Le bon sens n'existe qu'en relation, justement, à une façon familière de faire fonctionner le mental. Et dans ce cas-là, on a certaines habitudes de pensée, et ce qui paraît évident, etc. Et jusqu'au jour où des choses, justement, telles que celles-là, non évidentes, surgissent, et on a du mal à les accepter, parce que ça remet en cause profondément tout son raisonnement et toutes ses bases de raisonnement. Donc ça suppose... Bah, c'est le fameux coût du changement dont a parlé le blogueur Plume. Il a dit qu'un des problèmes qui fait que les gens veulent pas changer, c'est que ça a un coût.
Bien sûr.
Effectivement, c'est un coût assez important de remettre
en
cause.
Concrètement, à l'époque d'Ératosthène, il y a Archimède qui construit un énorme bateau qui avait le potentiel de traverser l'Atlantique dès cette époque-là.
Ouais.
Mais moi, dans la fiction, j'imagine qu'ils disent on va en construire plusieurs et on va partir. Mais le coût, par exemple, pour un Alexandrie où il n'y avait pas d'arbres pratiquement, pour construire des bateaux comme ça, et le coût était faramineux. Et ils n'envoyaient pas la raison politique. Pourquoi on va s'embêter à aller partir là-bas alors que nos pays sont déjà riches?
Oui.
Ils mouraient pas de faim, ils n'étaient pas en surpopulation. Ils n'avaient aucune raison d'aller voir ailleurs puisque ça allait bien, en fond. En tout cas, pour les puissants, ça allait très bien pour les puissants.
Oui, oui.
C'est un peu, si on fait un bon aujourd'hui, on ne parle pas encore d'aujourd'hui, mais c'est un peu ça. Quand les gens disent... La crise pour tout le monde, il y a beaucoup de gens sur la planète pour qui c'est le pire absolu à ce moment.
Oui.
Donc ça dépend dans quel camp on se place. Et là, typiquement, les gens qui avaient les moyens de financer des voyages pour essayer d'explorer le monde qu'avait pensé Eratosthène, ils n'en voulaient pas, ils n'en avaient pas besoin de ces voyages.
Je ne suis pas sûr que le terme financer existe à l'époque. Hein.
Non, mais il fallait quand même payer. Il fallait quand même payer.
Il fallait quand même donner au moins de la nourriture aux ouvriers. Quoi. Oui, ça,
et
c'est
voilà,
sûr,
voilà. Et puis il fallait aller chercher les arbres. Les arbres, il fallait aller chercher dans d'autres pays. Donc ce n'était pas si simple que ça.
Oui, c'est pas simple.
Donc voilà, et ça ne s'est pas fait.
Ouais, ouais. Alors voilà un premier exemple avec cette durée, effectivement 1800 ans, quasiment 2000 ans entre cette découverte intellectuelle, avant tout une réflexion profonde, basée aussi sur l'expérience directe, hein, avec des mesures et des données mesurables. Et puis c'est Christophe Colomb qui ensuite lui arrive donc en 1492 à passer le cap. Et alors, à noter quand même, hein, que Christophe Colomb doit lui-même de nouveau, en quelque sorte, appuyer le fait, mais si c'est la Terre est ronde et on va pouvoir aller en Inde en passant par l'Ouest, ce qui paraît totalement incongru, puisqu'on sait que l'Inde est à l'Est, et parce qu'il est convaincu que la Terre est ronde. Mais par contre, il fait des calculs, ou il s'appuie sur des calculs de distance qui sont faux.
Oui, alors bon, la postérité d'Eratosthène a été très mauvaise. C'est sûrement pour des raisons philosophiques qu'il a été détesté, parce qu'il a été un ennemi des stoïciens, Eratosthène, a priori, alors qu'il a été un fidèle de Zénon, le créateur du stoïcisme, et il a rejeté après cette école-là. Il faut voir que les stoïciens ont dominé le monde presque jusqu'à aujourd'hui. Les stoïciens, c'est des déterministes, ils croient à une causalité implacable, etc. Et il s'est sûrement très fâché avec eux au point qu'ils l'ont détesté, au point de vouloir falsifier tout ce qu'il avait fait. Ce qui s'est passé, c'est que ces calculs ont été refaits. La Terre, au fur et à mesure que les stoïciens refaisaient les mesures, elle était de plus en plus petite. Mais les Arabes, à peu près 1000 ans après Eratosthène, ont refait les mesures de la Terre en reprenant la méthode d'Eratosthène. Mais les Arabes, ils utilisaient des 1000 Arabes pour faire leurs mesures.
Oui.
Et quand Christophe Colomb a décidé de partir, il a repris les 1000 Arabes des Arabes, donc ces 1000-là, de la mesure de la Terre, qui était juste, c'était la même valeur que celle d'Eratosthène, mais il les a remplacés par des 1000 Génois qui étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petits. Donc il a réduit la taille de la Terre de 40 000 km à 30 000 km.
Ah oui, donc il s'est trompé de 30%.
Donc juste d'un seul coup, l'Atlantique devenait beaucoup plus, petit, mais il a fait une seconde erreur, c'est que pour estimer la taille du continent de l'Europe et de l'Asie, il a pris cette fois-ci l'estimation des Génois et pas celle des Arabes, qui, elle, donnait une taille du continent beaucoup plus grande de nombre de degrés qu'elle couvrait. Je crois que il est passé de 180 degrés à 220 degrés pour l'Eurasie. Donc il a fait grandir démesurément l'Europe et l'Asie, et il a réduit la taille de la Terre. Donc du coup, la taille de l'océan Pacifique devenait à peu près la taille de la Méditerranée dans son grand axe, si on la prend dans la longueur.
Mmh.
Donc
oui.
Ça, il savait qu'il pouvait le naviguer.
Oui.
Et si c'est pas cette erreur... Je suis pas sûr. Alors, est-ce que cette erreur était consciente ou pas? Parce que, est-ce que c'était pour se donner du courage? J'en sais rien. En tout cas, il y a ces deux erreurs qui se combinent, qui lui disent, bon, il y a un océan, mais il n'est pas si grand que ça, donc je peux y aller.
Oui, alors, moi, je dis souvent, quand je raconte cette histoire, je dis, quand il part, s'il croit que ses mesures sont justes, il dit, heureusement qu'il y a l'Amérique au milieu. Parce que sinon,
ouais.
Il se perd en mer.
Il se perd en mer, oui.
Donc, ouais. Alors voilà, donc
ce
ça...
Ce qui est fou par rapport à l'Amérique, c'est que, je ne me rappelle plus son nom, il y a un des Grecs, à l'époque d'Eratosthène, même légèrement un poil avant, qui en observant les marées, et la fréquence des marées, en Espagne, au Portugal, déduit déjà qu'il y a un continent au milieu.
D'accord. Mais en tout cas,
c'est super intéressant, ça, déjà.
Oui, alors...
Pareil, ça a été perdu.
Exactement. Alors, ça nous renseigne sur comment, finalement, ce paradigme a fini par s'imposer. Mais 2000 ans après, puis après avoir été un peu oublié aussi, entre-temps.
Ouais.
Donc,
il s'impose pour une raison aussi assez particulière, c'est que là, on est en pleine crise à la fin du XVe siècle. C'est que il y a de la pauvreté, il y a des famines, il y a de la surpopulation en Europe, il y a des Arabes qui sont en train de prendre le pouvoir sur la mer Rouge, etc. Donc la route de la soie de l'Asie est bloquée, de la Chine est bloquée, donc il faut trouver d'autres routes. Donc il y a beaucoup de raisons géopolitiques... qui font que le monde étouffe un peu.
Oui, donc on a besoin
là,
d'air.
Là, il y a des gens qui vont payer la construction, qui vont accepter de donner du fric pour que quelqu'un parte à explorer. ce qui n'était pas le cas 1800 ans avant.
Oui. Tout à fait, d'accord. Donc, alors à noter, donc, voilà, qu'en termes de changement de paradigme, on voit ici une durée tout à fait colossale. Bon, c'est sûr que aussi le nombre d'hommes concernés est moins important qu'aujourd'hui. Hein, ils étaient moins nombreux en termes de population. Donc, ça peut jouer aussi, bien sûr, dans les paramètres. Alors, un deuxième changement de paradigme qui s'est fait de façon différente, lui aussi, qui est quand même très intéressant et très important, c'est bien sûr celui apporté par ce qu'on appelle aujourd'hui, celui que l'on nomme aujourd'hui comme étant le père de la physique, c'est bien entendu Galilée. Alors, faut pas oublier Copernic quand on parle de Galilée, parce que évidemment, il n'a pas fait le travail tout seul.
Ouais.
Il n'y a pas que Copernic d'ailleurs. Hein, il y en a d'autres. Hein, je ne sais plus lesquels tous les noms, mais en fait, bon, essentiellement Copernic et Galilée. Et donc Galilée, lui, donc va arriver à bon, il fait plein de découvertes, hein, Galilée, d'ailleurs. Il ne fait pas que l'histoire de la Terre qui tourne sur elle-même et autour du Soleil, avec des données, justement, avec les données astronomiques. C'est un peu ça l'idée, mais il va donner une des premières lois physiques sur le mouvement du pendule, voilà, et donc tout un tas d'avancées tout à fait intéressantes et précises. Mais alors là aussi, par contre, il est devant quelque chose d'un peu semblable avec Ératosthène, même si le sujet est un peu différent, parce qu'Ératosthène, c'est surtout la Terre est ronde. C'est pas tellement qu'elle tourne sur elle-même. Là, on est vraiment sur un changement très curieux, parce que ça veut dire qu'on est en train de tourner sur nous-mêmes, alors qu'on s'en rend pas compte, en fait, en quelque sorte. Et en plus, cette boule qui tourne sur elle-même tourne autour du Soleil. Alors, il y a le fameux procès de Galilée. Et alors, à la même époque, un autre scientifique ou un autre philosophe, que la distinction n'est pas encore faite entre les deux. Giordano Bruno, lui, il va se faire brûler carrément. Il se fait brûler, alors aussi parce qu'il avance des thèses un peu hérétiques concernant la religion, en plus d'aller vers l'héliocentrisme, c'est-à-dire le fait que le Soleil est plutôt au centre que la Terre. Donc il va peut-être un peu loin dans sa remise en cause des choses établies.
Ça déplace Dieu en même temps. Le fait de déplacer le centre du monde, on déplace Dieu.
Et on déplace aussi Dieu, éventuellement, oui.
Et oui, parce que Dieu, d'être centré sur les hommes, d'un seul coup, l'homme est décentré par rapport aux hommes. Et ça pose un énorme problème philosophique.
Voilà, exactement. Et là, Galilée va être plus prudent, même s'il y a un procès de Galilée, bon, il va se faire condamner, mais légèrement, c'est pas très grave ce qu'il a là, condamnation, il est un peu enfermé, mais pas beaucoup, et puis dans des conditions tout à fait acceptable, enfin bon, c'est pas très très grave. Bon, il se met quand même un peu à dos les jésuites et tout ça, mais il va être un peu prudent dans la mesure où il va dire, oui, non mais attendez, c'est pas parce que, avec les observations que l'on fait des mouvements des étoiles, etc., on peut arriver à la conclusion que c'est équivalent de dire, en fait, que la Terre tourne autour d'elle-même et autour du Soleil. Et à la question qu'on peut lui poser, mais alors dans ce cas-là, pourquoi changer si c'est équivalent? C'est quand même plus naturel de dire qu'on est sur Terre et que ce sont les astres qui tournent autour. Et il va répondre à quelque chose de très joli. En tout cas, c'est ce que lui fait dire le téléfilm qui a eu lieu hein, à son sujet, Galilée ou la mort de Dieu, où on reprend son procès. Mais enfin, je trouve que la phrase est très bien dite, et je crois bien qu'il l'a dit comme ça. Il dit, mais simplement, c'est plus élégant. C'est plus élégant, parce que quand on met le Soleil au centre et qu'on fait regarde le mouvement des planètes dans ce référentiel-là, voilà, c'est cette idée de changer de référentiel, ben, tout paraît beaucoup plus clair, naturel presque.
Oui, mais surtout les calculs sont plus simples.
Voilà.
Et ils avaient quand même un problème à cette époque-là, il y a des choses qui ne marchaient plus.
Oui.
Avec le système d'Aristote, de
Ptolémée,
Nicolas Ptolémée, etc. Ils étaient arrivés à des. Il y avait des bugs partout dans l'ancien système. Donc
oui.
Il fallait bien qu'ils trouvent une solution pour résoudre ces bugs.
Voilà, ils n'arrêtaient pas de boucher les trous. C'est un peu d'ailleurs souvent comme ça que les révolutions se font. Et alors, notamment, il y a toute une histoire avec cette ancienne façon de voir le monde avec la voûte céleste, etc. Il y a les fameux épicycles, enfin je ne connais d'ailleurs pas les détails et tout ça, mais tout un tas de termes sont utilisés pour qualifier des exceptions.
Mais oui, parce qu'en fait, tout était centré sur la Terre, ils imaginaient qu'il y avait des orbites circulaires sur lesquelles des points orbitaient à leur tour de façon circulaire. Donc c'était des roues dans des roues. Ils arrivaient à recréer des ellipses, c'est pas possible, mais c'était pas des ellipses, c'était des trajectoires complètement folles. Ils faisaient tourner des cercles dans des cercles pour arriver à ce que tout soit centré sur la Terre. Donc c'était un casse-tête, vraiment un casse-tête monstrueux.
Oui, et surtout à essayer de leur donner à ces trajectoires une forme de simplicité qu'ils n'arrivaient pas à retrouver, c'est aussi ça. Et en changeant cette idée géniale qui de dire, mais si je regardais les choses comme si finalement j'étais à la place du Soleil, eh bien là tout s'éclaire, tout devient ellipse, toutes les planètes suivent des ellipses, et à partir de là les choses sont beaucoup plus claires puisque le mouvement est généralisé, voilà, les planètes suivent des ellipses autour du Soleil. Et alors,
ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps que Galilée fait cette simplification-là, et donc il change quand même, il change le centre du monde, c'est gigantesque, il y a Descartes en même temps qui formalise la méthode scientifique que Copernic avait esquissée. Donc, et Descartes, dans le discours de la méthode, outre de dire je passe donc je suis, il propose cette idée. Qui est un énorme changement de paradigme, c'est la méthode cartésienne pour aborder les problèmes. C'est-à-dire que tout problème, selon Descartes, peut être décomposé en sous-problèmes, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on puisse résoudre tous les petits sous-problèmes, et quand on les a tous résolus, on a résolu le problème d'ensemble.
Voilà, on réduit les parties en petites choses qu'on essaie de réduire.
C'est ce qu'on appelle le réductionnisme, donc voilà. C'est Descartes qui le postule, et cette méthode-là, en revanche, c'est vraiment comme de la poudre qu'elle va se répandre.
Oui, tout à fait.
Voilà. Immédiatement, tout le monde se met, en tout cas dans le monde scientifique occidental, tous les gens qui font de la technique, vont appliquer la méthode de Descartes pour aborder tous les problèmes.
Alors, quand tu dis immédiatement, il faut toujours être, bien sûr, prudent, parce que ça, on voit ça avec 500 ans d'écart. Bien sûr, à l'époque, d'abord, l'information n'allait pas comme aujourd'hui à la vitesse de la lumière. Pour que les choses se diffusent, rien que ça, ça prenait du temps, parce que
bien sûr.
Galilée a fait éditer son livre. Ça a mis presque des dizaines d'années d'ailleurs avant que le procès qui lui est fait revienne sur ce livre d'ailleurs. Hein. Donc voilà, tout ça est très lent à l'époque. Et puis, ce qui m'intéresse ici encore une fois, c'est la méthode et la durée. Galilée va pas frontalement essayer de remettre en cause tout l'existant, comme un peu l'a essayé de le faire Giordano Bruno, avec y compris en remettant en cause des fondements religieux. Bon, je reviendrai pas dessus, ça m'intéresse pas. Mais en tout cas, il était brûlé pour ça, donc il est allé un peu fort. Et Galilée, en étant plus subtil et plus prudent, en étant un peu plus... d'ailleurs, peut-être plus juste aussi, puisque finalement, sa description nous amène au principe de relativité galiléen, qui est de dire, c'est pas que c'est l'un ou l'autre, c'est pas que la voûte céleste tourne autour de la Terre, ou que c'est la Terre qui tourne autour d'elle-même, autour du Soleil. C'est que on peut toujours regarder les choses depuis n'importe quel référentiel, sur Terre, depuis le Soleil, depuis Mars, depuis Jupiter, et on pourra voir des trajectoires, et simplement, il existe un référentiel parmi ceux-là où les choses sont un peu plus simples, donc autant l'utiliser parce qu'il est plus pratique, au final, mais il n'est pas plus vrai que les autres. Voilà, donc c'est aussi ça qu'il faut comprendre, c'est cette histoire de principe de relativité qui n'établit pas de primauté d'un référentiel sur l'autre, hein, mais plutôt une question de simplicité parmi tous les référentiels, prenons celui qui est le plus simple, étant donné un problème donné. Voilà, si j'étudie par exemple le parcours d'un skieur sur une montagne, je ne vais pas prendre le soleil comme centre.
Hein.
Sinon, ça sera beaucoup plus compliqué que si je me prends simplement la pente de la montagne comme base de calcul de mes coordonnées. Voilà, donc il faut toujours comprendre ce principe-là. Il y a équivalence entre référentiels, et dans certains référentiels, les choses peuvent paraître plus compliquées que dans d'autres, mais elles ne sont pas non moins pas plus fausses ou plus vraies. Voilà. Donc en étant prudent, finalement, il a réussi à ce que aussi cette idée qui. S'appuie sur les travaux de Copernic, rappelons-le quand même, cette idée donc ne se perde pas, de façon à ce que aussi il ait un nombre d'ennemis assez limité, même s'il a fini par se mettre à dos les jésuites, mais je dirais de façon modérée là aussi. Cette idée finalement a été gardée, a été travaillée, sans que l'Église y trouve trop à redire, tout en ayant une position un peu justement bancale l'Église, parce qu'elle gardait un pied... plutôt avec Ptolémée, sans remettre en cause sa position. Mais pourquoi? Parce qu'essentiellement, il y a aussi un aspect, bien sûr de pouvoir, hein, on parlait de pouvoir tout à l'heure, mais de pouvoir spirituel, bien sûr, mais aussi de pouvoir économique, au sens où il y a aussi tout un tas d'ouvrages à l'époque qui défendaient quand même l'explication de Ptolémée. Donc évidemment, s'il fallait tout réécrire d'un coup...
C'est l'explication d'Aristote, en fait, c'est la vision d'Aristote qu'il a emporté, en fait, historiquement.
Oui.
Donc voilà, Ptolémée avait mis des chiffres sur la vision d'Aristote, et c'est cette vision-là qui avait été, qui arrangeait bien l'Église, en fait, qui est aussi une vision avec, qui est pas loin du platonisme, hein, et qui collait parfaitement avec le christianisme. Alors je sais pas où c'est dans l'entre-temps, c'est le christianisme parfaitement collé à cette vision-là. Historiquement, c'est plutôt dans ce sens-là que ça s'est fait.
Ouais.
Et remettre en question c'était presque remettre en question le fondement, en fait, philosophique. Et ça posait vraiment quelques problèmes. Donc il fallait, en effet, y aller avec douceur.
Alors, à noter que les 2000 ans qui ont séparé donc Ératosthène de Christophe Colomb sont réduits avec Galilée à quelque chose comme 500 ans, puisque bon, d'abord au XXe siècle, bien sûr, on commence à aller dans l'espace et faire le tour de la Lune, voire se poser sur la Lune et envoyer des satellites un peu partout, y compris sur Mars et compagnie. Mais on a aussi même l'Église qui, à la fin des années du XXe siècle, dans les années 1992, on a Jean-Paul II qui déclare que la science nouvelle, avec ses méthodes et la liberté de recherche qu'elle suppose, obligeait les théologiens à s'interroger sur leurs propres critères d'interprétation de l'Écriture, et la plupart n'ont pas su le faire. Voilà ce qu'il disait de l'affaire Galilée. Donc ça veut dire qu'il remettait en cause non pas les Écritures, mais l'interprétation que les théologiens en faisaient à l'époque, hein, donc en réhabilitant en quelque sorte Galilée. Ils disent que c'est pas tout à fait une réhabilitation, puisque le tribunal qu'il avait condamné à l'époque, de toute façon, n'existait plus. Bon, bref. Mais voilà, donc même l'Église finit par se ranger à cette vision héliocentrique comme étant valide, ce qui remet pas en cause, encore une fois, le géocentrisme. Il faut bien comprendre ça, c'est qu'on a deux référentiels possibles, il y en a un qui est plus simple que l'autre. Ça veut pas dire qu'il est plus vrai. Simple.
Ce qu'il faut voir aussi, c'est que le géocentrisme, le fait qu'on passe du monde centré sur la Terre au monde centré sur le Soleil, en fait, ça n'a pas de très grandes conséquences pour les hommes, tant qu'on ne va pas dans l'espace.
Oui.
Alors, ce qui est important, c'est de dire la Terre est ronde et elle mesure telle taille.
Oui.
Parce que ça implique la possibilité d'un voyage. Pour le commun des mortels, c'est énorme, parce que ça veut dire qu'il y a de l'or qui va arriver de l'Amérique du Sud, il y a des richesses qui sont là-bas qu'on va pouvoir importer, etc., ou exporter. Ça change tout pour les hommes. Mais le fait que la Terre change d'axe, de point de rotation, ça, c'était dans la théorie. C'est pour ça que ça s'est fait, en fait, assez en douceur aussi.
Voilà, c'est pour ça que c'est fait en douceur, et puis qu'à l'époque des satellites, on était bien obligé, par contre, de commencer à le diffuser, parce que là on a cette possibilité de voyage qui commence à arriver. On commence à parler aujourd'hui de s'installer sur Mars, hein, donc ça commence à devenir presque jouable en quelque sorte, hein, ce changement de référentiel est même nécessaire. Donc alors, pour dire quand même que donc il a fallu 500 ans pour que, disons, on va dire, avec l'acceptation officielle de l'Église sur le sujet, on est une sorte de consensus sur le fait que oui, le référentiel héliocentrique est quand même, au moins, on peut dire qu'il est au moins plus simple. Voilà. Donc on peut tout à fait commencer à essayer de voir les choses depuis ce point de vue-là, et notamment pour ce qui concerne les voyages interplanétaires, ça devient nécessaire. Bon, donc, on voit ce changement, donc finalement, avec une continuité, puisque bien sûr, depuis Galilée, les scientifiques, donc les quelques scientifiques, les quelques hommes qui font de la science parmi tous les hommes, petit à petit adoptent petit à petit cette vision du monde, jusqu'à Newton et compagnie. Donc Newton qui va lui creuser plus profond. Allô ?
Ouais, je suis là.
Voilà. Et donc j'ai cru que ça avait coupé. Et donc voilà. Et alors, pour finir cette première partie, je voulais aussi qu'on aborde un autre changement, cette fois dans le domaine politique, un changement puissant, fort, mais qui, lui, s'est pas fait du tout en douceur, ni ne s'est pas fait avec 2000 ans de réflexion en amont qui aurait été oublié, enfin, quoique, on pourrait dire, depuis les Grecs, ça a été oublié, on pourrait dire ça. C'est bien entendu les révolutions du 18e, hein, parce que, bon, bien sûr, la révolution française, mais il y a aussi la révolution américaine, bon, qui est un peu différente, parce que en Amérique, on a des colons, c'est pas du tout le cas en France. Donc il faut faire un changement sur place en France, alors qu'en Amérique, on met en place une nouvelle société, donc on peut s'amuser à rebâtir sur des bases nouvelles. Mais donc on a la fameuse Révolution française qui remet en cause l'ordre social, hein, l'ordre politique. Hein. Et là, ça se fait par contre de façon violente, on veut changer ce qui est établi rapidement.
Oui, alors moi je pense que c'est peut-être... Ça s'est produit violemment, peut-être parce qu'il y a eu un refus de la noblesse d'accepter de laisser couler le changement. Il y a eu une sorte de résistance d'une certaine caste de la population qui a refusé le changement, et jusqu'à pousser à bout, entre guillemets, le peuple, et pas que le peuple d'ailleurs. Donc il y a tous les non-nobles qui ont fini par craquer, et c'est Spinoza dit ça, il dit que quand les gens n'ont plus rien à perdre, il ne reste qu'une chose, c'est le désir de vivre et de continuer à vivre. Et donc, ils sont prêts, et à ce moment-là, ils peuvent faire foule pour faire une armée, en fait. Et donc, à mon avis, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, les gens ont fait foule parce que la seule chose qui leur restait, c'était leur vie.
Oui, d'accord, oui, c'est ça.
C'est comme ça que je l'interprète, ce mouvement-là. Et quand on a dépassé la limite, en fait, c'est-à-dire qu'on a dépassé le point où on pouvait le faire en douceur. On a trop attendu à ce moment-là.
Ouais, on a trop attendu, on a trop exercé la... Trop mis de pression et la cocotte a fini par casser.
Voilà, c'est ça, l'histoire de la vapeur qui d'un seul coup ça se met à siffler, mais c'était trop tard. Parce que ça bouillonnait depuis quelque temps, hein, avec les Lumières, avec Rousseau, etc., Voltaire, ils avaient tous écrit, mais ils n'avaient pas passé dans le vide, parce qu'ils avaient été lus, écoutés, justement, ils avaient été lus, écoutés, mais rien n'avait changé. Et des choses avaient changé, bien sûr, mais pas radicalement. Et donc on a attendu de basculer, pour qu'il y ait une révolte violente. Mais si on regarde bien ce qui s'est passé après, le changement, il n'est pas aussi brutal que ça.
Oui, alors c'est-à-dire que là, disons que moi, ce que je voulais mettre en évidence, peut-être là-dessus, c'était l'aspect violent ici du changement, qui s'est fait parce que ça a voulu être fait en un temps court. Bon, alors peut-être effectivement par une accumulation de freins hein, préalables, hein, très certainement même. Bien entendu, puis il y a sans doute d'autres paramètres. On va pas faire du réductionnisme ici, puisque... Justement, on va en parler du réductionnisme après. Mais donc, on a ce changement brutal qui va quand même entraîner tout un tas de guerres immédiates. Alors, il y a l'épopée napoléonienne, hein, qui est directement issue de la Révolution. On ne va pas s'étendre là-dessus. Il faudrait faire... Et puis, on n'est pas des spécialistes, en plus. Mais,
non, pas du tout.
Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est violent, très certainement. Que derrière, il y a la Restauration, il y a de nouveau l'Empire, il y a de nouveau la République... Tout ça se mélange, il y a donc cette bascule qui se fait sur une durée très longue, c'est-à-dire les premiers révolutionnaires n'ont pas vu la finalité s'établir en quelque sorte, si on peut parler de finalité, l'histoire court toujours bien sûr, mais donc on a ces guerres, on pourrait parler de la guerre 1870, de 1914, de peut-être en 1945 et encore dans cette continuité-là. De ce changement politique quand même en deux siècles finalement qui remet en cause plus d'un millénaire en quelque sorte hein, d'ordre établi si on peut le voir comme ça.
Au fond ça remet en cause un ordre établi qui datait de l'Antiquité en fait parce que voilà. Pratiquement partout cet ordre-là avait prédominé.
Voilà. Et alors, on voit par contre par rapport à ça, qu'une monarchie telle que la monarchie anglaise a, elle, su peut-être tirer des leçons de ce qui s'est passé en France, mais aussi sans doute aux États-Unis, puisqu'ils avaient des colonies et qu'ils les ont perdues, et qu'ils ont réussi à justement exercer, mettre en place une transition en douceur avec une monarchie constitutionnelle qui s'est sans doute adaptée.
Oui, oui, parce que c'est les premiers, et la première révolution, elle est chez eux, avec le Parlement. Donc, c'est plus de 100 ans avant qu'ils ont basculé. Donc, oui, ils sont allés en douceur. Je pense qu'ils sont allés ils ont montré qu'on pouvait traverser ce changement en douceur, les Anglais. Voilà. Donc, à chaque fois, on a toujours ce choix, je pense, qui s'oppose quand il y a vraiment une possibilité de vision du monde complètement nouvelle. De prendre son temps ou d'essayer de l'imposer par la force.
Voilà, mais alors, sachant que le temps dont on parle là.
Temps, en fait.
Voilà, mais sachant le temps dont on parle là, c'est plusieurs générations, c'est-à-dire que les premiers à le mettre en place, finalement, n'en voient pas l'aboutissement. Ils n'en voient que les prémices. Et donc, ça veut dire qu'il faut accepter, tu parlais du désir de vivre, mais il faut accepter, donc, du coup, de vivre une existence où on ne verra pas le changement qu'on voudrait voir, mais qu'on en accompagne le mouvement. Quitte à accepter le fait d'en passer le témoin à la génération suivante, en fait. Hein.
Oui, il y a deux cas de figure. Quand Gandhi dit, c'est pas lui qui l'a dit, mais on lui attribue en tout cas, que soit le changement que tu veux voir dans le monde ou que tu veux être dans le monde, il y a certains changements auxquels on peut participer. Mais je pense que dès que c'est vraiment une rupture de paradigme, forcément, ça s'étend un peu dans la durée. Je vois pas comment un changement de paradigme, c'est où on va changer une perspective sur le monde du tout au tout presque. Elle ne peut pas se faire à une génération parce que on est né avec un modèle et c'est super dur de le casser.
Ouais, tout à fait. Donc Eh bien, écoute, on va arriver à notre deuxième pause musicale, hein, puisqu'on en aura fait une suite à notre passage chez Ératosthène et Galilée. Et notre deuxième partie aura été donc cette révolution française, cette révolution politique. Donc, deuxième pause musicale, Thierry, et puis on se retrouve juste après donc, pour parler du présent.
Ok.
À tout de suite. Sur Monnaie Libre pour parler toujours donc de ces méthodes de changement de paradigme dans l'histoire. On a vu, hein, on a vu trois cas, Ératosthène, on a vu Galilée, on a vu eh bien, les changements politiques avec la Révolution française, on en a parlé un peu. Et puis donc on va voir maintenant au présent qu'est-ce qu'on pourrait envisagés comme étant des changements de paradigme, ce qui n'est pas évident, parce qu'évidemment, quand on est au présent sur l'existant, on n'est pas forcément conscient exactement de quels paradigmes sont en train d'émerger de façon visible. Puisque c'est plus facile de parler du passé, bien entendu, que de parler au présent de ce qui change, puisque c'est le futur qui décidera de dire voilà ce qui s'est passé dans le passé, bien sûr. Donc alors, mais par contre, on a un peu un spécialiste avec toi, Thierry, parce que toi, ton dada, c'est de parler du changement qu'a apporté l'hyperconnexion, en quelque sorte, le nomadisme, le fait d'être hyperconnecté, le fait d'avoir aussi des ruptures technologiques fréquentes, dont tu es friand d'ailleurs, hein, puisque tu es un peu à la fois technophile et aussi critique de la technologie, tu fais un peu les deux. Donc alors comment tu vois toi ces changements? Je crois que ton thème, toi, c'est parler de complexité en partie. Hein.
Ouais, en fait, j'ai évoqué Descartes, en fait, quand Descartes dit que tous les problèmes peuvent être résolus en les découpant en petits morceaux, c'est une position philosophique, c'est une perspective, ça, qui marche tant qu'on a des problèmes assez simples à résoudre. Par exemple, si on veut construire une voiture, il y en a un qui va s'occuper du moteur, l'autre de la carrosserie, l'autre de l'habitacle, etc., des sièges, de l'intérieur, de la forme des sièges, etc. On voit comment un problème donné peut être découpé en sous-problèmes qui peuvent être traités indépendamment. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des problèmes simples, et la méthode Descartes marche très bien pour ça. Mais il y a d'autres types de problèmes qui émergent aujourd'hui, qui sont ce qu'on appelle les problèmes complexes, par exemple le dérèglement climatique ou le dérèglement économique, etc. C'est des problèmes globaux où il est difficile de dire on va traiter le climat de la France là, le climat de la Chine là, etc. Ça marche pas. Alors, on n'est pas capable de décomposer ces problèmes un problème plus simple. Donc dès qu'on a des problèmes qui ne peuvent pas être décomposés en problèmes plus simples, on est vraiment embêté avec la méthode cartésienne, ça marche pas.
Oui.
Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus de problèmes comme ça. Des problèmes complexes, parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la Terre, on est de plus en plus interconnectés. Et une des choses, des systèmes qui est le plus compliqué aujourd'hui, c'est que plus on est interconnectés, plus les causalités se brouillent. Parce que quand on fait quelque chose à un endroit du monde, en quelques secondes, ça s'est propagé aux autres endroits du monde parce que ça se sait, parce que les gens en parlent, parce qu'il peut même y avoir de la causalité physique qui se produit, parce que on envoie des virus avec un avion à droite à gauche, etc. Donc on voit que d'un seul coup, la complexité des interactions dans le monde est sans commune mesure avec celle qu'elle était dans le passé. Donc on est passé d'un état du monde qui était pas simple, mais disons qu'il était compliqué. Par compliqué, on entend des interactions, mais pas des interactions faramineuses en nombre, en quantité. Voilà. Et là, aujourd'hui, on est passé dans un monde qui est beaucoup plus complexe qu'avant. Et moi, je dis tout souvent qu'on traverse une crise de la complexité. C'est comme on est passé dans un système beaucoup plus complexe qu'avant, mais on n'a pas changé notre méthode, notre paradigme, justement. On analyse toujours, et tous les politiciens, il suffit, une fois qu'on l'a compris, il suffit de les écouter, ils abordent, ils traitent toujours, ils veulent toujours traiter les problèmes avec la méthode de Descartes. Toujours, toujours, toujours. Et le problème, c'est que cette méthode, elle ne marche pas pour résoudre les problèmes complexes. Donc là, voilà, on est typiquement dans une transition, peut-être, que moi, en tout cas, moi, il me semble que je la vois assez clairement, et on a compris qu'il fallait changer de méthode d'organisation pour essayer de la traiter, mais on reste accroché à la méthode cartésienne.
Oui.
Donc voilà, moi c'est voilà, ça c'est mon c'est le portrait de base que je fais, que j'ai réfléchi à ça il y a une dizaine d'années quand j'écrivais Le Peuple des Connecteurs. Et c'était mon point de départ, c'est de dire voici le monde est complexe, donc il faut adapter des modes de pensée, des modes d'organisation et tout ce qu'on veut à cette complexité, plutôt que de la nier en permanence.
Oui, alors la question après, c'est de savoir est-ce qu'il faut s'adapter à la complexité ou est-ce qu'il faut une complexité qui s'adapte à l'homme? Parce que peut-être si on met... C'est-à-dire qu'il y a peut-être une... Si on crée une machine qu'on ne contrôle plus, on peut être embêté, quoi. C'est ça que je
pense. Oui, mais ça, c'est la position des décroissants, en tout cas, il y a beaucoup de décroissants, voudraient réduire la complexité. Ils disent qu'on est allé trop loin avec la technologie, etc. Mais on est déjà allé trop loin avec en faisant des enfants. Puisqu'on est 7 milliards, on va vers 9. On va avoir du mal à réduire cette complexité-là, maintenant. Donc, je crois qu'on a créé une complexité dans le monde avec laquelle on n'a pas le choix de devoir apprendre à vivre. Et si on n'apprend pas à la gérer, elle est là maintenant, la complexité. Peut-être qu'on aurait pu éviter en y pensant un peu plus tôt. Mais aujourd'hui, on a créé cette complexité. Moi franchement, je ne suis pas très inquiet. J'étais pas très inquiet, je suis plus inquiet maintenant quand je vois que les choses bougent pas. Mais je pense qu'on a, on sait comment gérer des systèmes complexes. Et le meilleur exemple, c'est Internet. Internet a été pensé comme un système complexe. C'est-à-dire il n'y a pas un ingénieur dans un coin qui a fait le plan d'Internet avec un plan de développement, avec un business plan. Non. Ça s'est fait de façon organique, Internet. On a planté des petits réseaux par-ci, par-là, on les a interconnectés au fur et à mesure, on a inventé des protocoles, on les a trouvés pas mal, on les a gardés, etc. Et sans que personne ne dirige cette évolution, elle s'est faite. Donc ça, c'est une sorte d'évolution organique qui est complètement adaptée à la complexité, et ça a pas mal marché jusqu'à aujourd'hui.
Oui, mais on ne sait pas comment, puisque justement, elle s'est faite sans que ça soit planifié. Donc, on ne sait pas comment elle s'est faite.
Voilà, mais ça, c'est le propre, justement, de la complexité. Face à un système complexe, le plus dur, en fait, c'est d'accepter de renoncer au contrôle.
Voilà.
C'est qu'un système complexe ne peut pas être contrôlé. Et quand on voit, par exemple, les gouvernements, nos gouvernements, quand on regarde leurs mesures, ils ont une obsession pour le contrôle.
Alors, voilà, mais alors, justement...
Les renseignements, par exemple, qui veulent voter aujourd'hui, qui sont en train de voter en même temps qu'on parle, c'est vraiment de vouloir nous contrôler. C'est vraiment la volonté de réduire la complexité à tout prix.
Voilà, alors c'est là... Alors, ça fait une excellente transition, justement, pour aborder un des changements de paradigme du 20e, donc tout près de nous, qui est justement à l'origine de l'informatique, hein. C'est le fameux réductionnisme de Hilbert et sa faillite avec le fameux théorème de Gödel.
Ouais.
C'est-à-dire, pour faire simple, et sans entrer trop dans les détails, ça serait pas jouable sur l'émission, mais en gros Hilbert voulait établir un programme qui permettrait de démontrer en quelque sorte les vérités mathématiques de façon automatique. Il voulait pouvoir tout démontrer de façon automatique, puisqu'il n'y a pas de raison. On a bien compris que dans la façon de démontrer en mathématiques, il y a une forme de mécanisme, en fait, hein, de mécanisme qui essentiellement d'ailleurs dépend des axiomes de départ et puis des règles qu'on se donne pour faire des mathématiques, tout simplement. Donc il se dit, il n'y a pas de raison. Donc maintenant, si on affirme une chose en mathématiques, on devrait pouvoir dire automatiquement, par une série de mécanismes, voilà, c'est vrai ou c'est faux. Et ça, c'est du réductionnisme. C'est de vouloir tout réduire à, finalement, un algorithme, une mécanique que l'on contrôle et qui permettrait de réduire les maths à un simple procédé, tout simplement.
Oui, c'est la suite de Descartes, en fait.
Voilà, c'est la suite de Descartes. Et là arrive Gödel, bien sûr. Démonstration, c'est pas possible. Donc il arrive à la conclusion qu'il existe, il restera toujours des affirmations, quel que soit le modèle, en quelque sorte, pour faire simple là aussi, hein, je simplifie au maximum, c'est un peu plus subtil que ça, mais c'est à peu près l'idée. Quel que soit le modèle que l'on va pouvoir établir pour réduire les mathématiques, notamment réduire les mathématiques à un procédé mathématique, c'est-à-dire pouvoir parler des nombres avec des nombres, c'est exactement ce que fait l'informatique, hein, c'est-à-dire l'informatique, un programme informatique, c'est des 0 et des 1, et qui ne font que traiter quoi ? Ben, des 0 et des 1. Voilà, c'est exactement ça. Eh bien, quel que soit ce modèle de langage, on va pouvoir avoir des affirmations qui ne pourront pas être démontrées à partir des axiomes, justement. C'est exactement le même principe que le jardin d'Éden dont on parlait en début d'émission. C'est-à-dire qu'on aura des positions, en quelque sorte, en mathématiques, des affirmations, des énoncés, dont on sait pertinemment qu'ils ne peuvent pas être démontrés ou réfutés. S'ils ne peuvent pas être démontrés, ils ne pourront pas être réfutés non plus. À partir de ce même modèle. Il faudra trouver d'autres modèles dans lesquels ils trouveront du sens, en quelque sorte.
Oui. Moi j'adore le développement que fait Grégory Chaikin de Gödel, où lui, il montre qu'il y a des nombres qui ne peuvent pas être calculés. Ça, je trouve ça assez fabuleux,
oui,
de dire qu'il y a des nombres dans l'espace des réels qu'on ne peut pas calculer. C'est-à-dire qu'aucun calcul ne mène à eux.
Oui,
c'est assez génial, et c'est une sorte d'aveu de l'impossibilité pour les mathématiciens, en fait, d'être tout puissant en mathématiques.
Oui, voilà.
C'est une sorte de grande leçon d'humilité. Même un mathématicien ne peut pas être tout puissant en mathématiques. Donc, c'est-à-dire que, donc ça, c'est les années 20. Dès les années 20, les scientifiques, en tout cas les mathématiciens, certains, reconnaissent leur impuissance à tout contrôler. Mais c'est encore une fois, ça c'est pour moi, c'est vraiment au niveau philosophique, c'est vraiment la chose sûrement la plus importante, une des plus importantes du XXe siècle, et ça pas, et c'est encore, c'est pas digéré aujourd'hui. Hein.
Oui,
la plupart des gens ne comprennent pas ce théorème et surtout ses conséquences. Souvent, moi, quand je parle de ce théorème, les gens me disent « Ah oui, mais c'est qu'un théorème ». Et justement, c'est un théorème, il a été démontré. Les gens n'arrivent pas à admettre qu'on ait pu montrer une chose aussi folle que son impuissance.
Oui, voilà, on a démontré l'impuissance de la démonstration à pouvoir tout réduire, à pouvoir tout dire, en fait, voilà. Et, mais alors, ça, oui, ça va au-delà, parce qu'évidemment, à partir de là, on peut comprendre que toute pensée philosophique ou scientifique ou technique, ou peu importe, qui intègre les mathématiques, de facto, doit accepter une forme d'imprévisibilité, d'ignorance, de lâcher prise, quoi. Parce qu'elle ne peut être que limitée, quoi. Elle ne peut être qu'une projection. Il y aura toujours des éléments inattendus, y compris dans ce domaine-là, justement, qui pourront ne pas, justement, qui ne pourront pas être déduits, démontrés. Donc on ne pourra pas atteindre à partir des mécanismes qui auront été établis dans cette pensée, en fait. Voilà.
Ouais, et c'est là que Turing est aussi génial à son tour. C'est que lui, quand il imagine, pour continuer cette démonstration, l'ordinateur comme une suite de la démonstration de Gödel, et il montre qu'une machine à calculer universelle ne peut pas, par exemple, calculer quand c'est qu'un programme va s'arrêter ou pas. C'est-à-dire qu'un programme n'est pas capable de savoir s'il va s'arrêter ou pas. Donc, c'est pour ça qu'on a des bugs, en fait. C'est qu'il est impossible qu'un programme se débugue lui-même.
Voilà.
Et si on crée un programme pour essayer de le débugger, c'est le programme qui est débugué qui ne pourra pas se débugger lui-même.
Oui.
Donc on voit qu'on a au cœur même de l'informatique une sorte de renoncement. Et ça me paraît très important, parce que les gens disent toujours l'ordinateur fait un truc déterminisme, carré, rigoureux. Mais non. En fait, au cœur même de l'informatique, il y a une zone d'ombre, une zone de non-connaissance et d'impuissance. Et voilà, les ordinateurs peuvent partir en boucle, sans savoir qu'ils sont partis en boucle.
Oui.
Donc la seule façon de sortir de là, c'est de les arrêter de temps en temps par un agent extérieur qui les coupe.
Et donc, en l'occurrence, l'agent extérieur, c'est le plus souvent, c'est nous. Hein.
Oui, exactement. Et Turing avait compris ça, il avait tout compris, Turing. Voilà, il avait compris que pour qu'un ordinateur devienne intelligent, il faudrait qu'il soit capable de se sortir de ses boucles, etc. Et je pense que nous-mêmes, on ressemble à des ordinateurs, on part en boucle aussi, on voit bien les similitudes de nos façons de fonctionner. C'est dans les zones de notre impuissance qu'on ressemble à des ordinateurs. C'est pas dans les moments où on est tout puissant, où on est très très bon en maths, non. C'est dans les moments où on est faible. Et l'ordinateur, il est très faible de ce côté-là.
Oui, tout à fait. Donc cette irréductibilité, hein, y compris de ce qui semble le plus mécanique qui soit, la démonstration, l'informatique, la causalité, j'ai envie de dire aussi, hein, c'est-à-dire
oui,
ce qui est attendu. Donc ça veut dire aussi qu'on pourrait étendre ce principe, d'ailleurs, à la notion même de causalité, parce que si la causalité est exprimable en mathématiques, alors elle aussi contient forcément dans son mécanisme même des possibilités non causales.
Oui.
Voilà, et là on retrouve ce principe simplement dans l'expérience quand on parle de la mécanique quantique où il y a des choses justement un peu étonnantes qui se passent mais on pouvait le comprendre d'un point de vue logique aussi.
Thank you.
C'est-à-dire
et on peut le comprendre en informatique, par exemple, où on perd la causalité, où du moment qu'on efface des variables, quand un programme tourne, que des variables s'effacent et qu'elles sont recouvertes par d'autres, au bout d'un moment, on perd l'histoire. On perd l'histoire de ce qui se passe et on ne peut pas revenir en arrière. Et ça, par exemple, dans le jeu de la vie, on s'en rend très bien compte. Dans cette petite simulation, elle est très riche d'enseignements. Quand on le regarde évoluer, on sait qu'on peut passer d'un point A à un point B. Il y a certaines situations où du point B, on ne sait pas quel est le point, revenir au point A.
Oui.
On peut imaginer qu'il y a une centaine de points A différents qui peuvent mener à B, mais on ne peut pas savoir lequel a existé.
Oui, oui.
Et on voit que ça fait penser à l'irréversibilité en physique, c'est qu'on ne peut pas partir en arrière. Il y a plein de possibles pour l'arrière, mais il n'y en a pas. Mais on ne sait pas lequel a été vécu en fait par le système, puisque tout a été effacé.
Oui, voilà, c'est ça. Oui. C'est cette histoire de ne pas savoir forcément ce qui s'est passé. Ce qui peut expliquer aussi, toute mesure étant gardée, ce n'est pas tout à fait le même sujet, mais on pourrait l'étendre au principe que l'histoire n'est pas vue de la même façon, hein, selon l'observateur. Hein. Y compris l'histoire de l'homme. Hein. Je veux dire, on voit bien qu'on a des histoires de l'homme qui s'affrontent selon le point de vue. Il ne s'est pas passé la même chose.
Hein. Oui, et l'histoire est d'ailleurs très intéressante parce que jusqu'à aujourd'hui, en tout cas moi, l'histoire qu'on m'a appris, l'histoire qu'on lit dans les livres, c'est l'histoire de quelques hommes, souvent.
Oui.
C'est de l'histoire de quelques hommes. On est dans une vision très cartésienne où voilà, des hommes qui étaient en position de pouvoir ont décidé pour tous les autres. Et on continue à voter pour des hommes comme ça, et on continue à parler d'eux, à écrire des livres sur eux, etc. On est dans cette vision que quelques hommes font l'histoire. Alors, et ça c'est complètement incompatible avec un système complexe, où qu'il y ait une accumulation de petits faits qui, à un moment donné, vont faire s'écrouler la pyramide. En fait, on donne souvent l'image du tas de sable, le tas de sable qui se construit grain après grain, puis d'un seul coup, il y a un grain qui va provoquer une avalanche. Mais c'est pas un homme en particulier qui est responsable de l'avalanche. C'est tous les grains qui sont accumulés au cours des années, et parfois des siècles, qui font que cette avalanche se provoque. Donc, continuer à écrire, à raconter l'histoire comme si elle était le fait de quelques hommes en particulier, c'est incompatible avec la complexité.
Ouais. Alors, donc ça nous amène forcément maintenant, on a vu, après avoir vu toutes ces analyses un peu sur les changements de paradigme, ça nous amène forcément au problème de la monnaie, puis c'est quand même le sujet de monnaie libre aussi, et que un peu le sujet du podcast c'est justement de montrer comment le paradigme de la monnaie doit être revu, et déjà revu, puisque, alors, on pourrait résumer aussi, là aussi, la situation actuelle, qui correspond à des situations préalables qui ont beaucoup de similitudes aussi, bien sûr, mais à une volonté de réduire justement l'instrument monétaire à une forme de réductionnisme à sa seule nature de dette, en fait. Hein. C'est parce que on tient à garder une définition restrictive et réductionniste de ce qu'est la monnaie c'est de la dette, qu'on ne sort pas, finalement, de cette possibilité. Ceci dit, moi, ce qui m'intéresse ici, parce qu'on l'a déjà fait dans plein d'autres émissions, je ne veux pas revenir dessus, ce qui m'intéresse ici, c'est plutôt de dire, bon, on a compris maintenant que d'autres paradigmes monétaires sont possibles, notamment un paradigme symétrique dans l'espace et dans le temps, où tous les individus sont coproducteurs de la monnaie, ce qui ferait une monnaie libre, donc je ne reviens pas sur les détails de la théorie relative de la monnaie. Mais c'est plutôt d'essayer d'approcher le problème par rapport à ce qu'on a vu dans cette émission, Thierry, c'est-à-dire au niveau de la méthode. Comment, au vu de ce qu'on a perçu de ces histoires antiques, de ces histoires plus récentes à la Renaissance ou à la Révolution, ou encore plus récemment ce problème de complexité, comment aborder ce problème de changement de paradigme monétaire, sachant que, bien entendu, l'inertie générale actuelle sur la façon de voir et comprendre la monnaie est quelque chose qu'on ne peut pas justement ignorer et qui est une inertie réductionniste qui tient la monnaie pour une certaine ayant une certaine propriété et pas d'autres. Donc comment les nouveaux paradigmes monétaires vont pouvoir s'établir, démarrer, prospérer et pouvoir progressivement s'installer, quoi.
Ouais, ce que je vois, c'est que l'idée cartésienne de décomposition des problèmes sous problèmes implique la notion de contrôle. Donc, Donc la monnaie que, qu'on utilise tous aujourd'hui, c'est une monnaie qui est contrôlée. C'est bien ça. C'est qu'on est dans un modèle cartésien de contrôle, et donc la monnaie n'échappe pas à cette logique. Donc c'est une monnaie contrôlée. Pour arriver à changer de modèle et avoir une monnaie qui serait adaptée à la complexité du monde, etc., il faudrait une monnaie où ceux qui la contrôlent aujourd'hui accepteraient de relâcher leur contrôle. Ça, moi, ça me paraît comme ça, ils vont pas la lâcher pour nous faire plaisir, en gros. Donc il y a deux scénarios, on les a déjà évoqués historiquement. Il y a le scénario violent où on leur dit on va vous obliger à lâcher le contrôle, et je pense pas que ça soit le bon. Et il y a l'autre scénario qui est plus l'histoire d'Internet, c'est-à-dire on va faire pousser des monnaies, et on va faire pousser des monnaies un peu partout, et on va voir comment elles vont s'organiser entre elles, comment on va les utiliser. Et donc là, ça sera des monnaies qui auront échappé au contrôle centralisé, en fait.
Oui, alors on se retrouve d'ailleurs aujourd'hui par rapport à ça avec un recul historique, et notamment en particulier on peut parler des années 30 où justement les sels déjà avaient commencé à exploser, parce que c'était déjà une crise économique et monétaire. Bon, évidemment, les hommes n'étaient pas interconnectés comme aujourd'hui, donc la chose s'est faite de façon plus éparpillé, sans doute à une échelle assez petite. On a l'exemple du vire suisse, et récemment on a de nouveau un regain d'intérêt vers ces monnaies complémentaires, etc. Mais on voit que la problématique aussi de ces monnaies justement complémentaires, ou ces monnaies, elles restent attachées au paradigme ancien, et le plus souvent même carrément indexées aux monnaies existantes.
Hein. Ouais. Donc, moi je pense que c'est pour ça que je dis toujours, il faut une prise de conscience, moi, parce que si on n'a pas compris que si on ne change pas de méthode d'organisation, on va aller dans une sorte de mur, parce que le système réductionniste, pour qu'il fonctionne et qu'il continue à fonctionner, il lui faut de la simplicité. Or, comme on a créé vraiment un gros bazar dans le monde avec toute notre interconnexion, il n'y a pas 50 solutions. Pour ce système de continuer, il faut qu'il réduise la complexité. Il y a des façons assez radicales. C'est on va tuer quelques milliards d'êtres humains, on va réduire la complexité, ou on va transformer tous les êtres humains en petits soldats obéissants, et encore une fois, on va réduire la complexité. Le danger, c'est que si on nie la complexité, on va trouver des solutions pour la régler qui vont pas être très agréables. Donc il faut que beaucoup de gens, et je ne sais pas combien de gens, quel pourcentage de la population, aient compris qu'il fallait changer de vision, changer de représentation du monde pour qu'on puisse basculer sur des nouvelles organisations, donc sur une nouvelle monnaie, sur des nouveaux outils, sur Internet, etc. Donc s'il n'y a pas de prise de conscience, ça va être difficile, ça va être super difficile.
Alors si on comprend aussi cette problématique de temps nécessaire au changement de paradigme, comme on l'a vu, 2000 ans pour Eratosthène, 500 ans pour Galilée, si on compte dans cet ordre-là. Pour Gödel, le théorème de Gödel, on voit, c'est pareil.
C'est pas fait pour les scientifiques, mais même pour les philosophes, c'est pas fait.
Ah non, mais pour les philosophes...
Je me suis disputé un jour avec un philosophe pas prestigieux, mais assez connu, prof à la fac, etc., il n'avait rien compris, il savait même pas que ça existait, c'était très grave. Et du coup, il faisait faire des thèses à des gamins où Gödel avait déjà démontré que ça ne servait à rien de faire la thèse. Et donc moi, je me suis retrouvé à discuter avec ces gens-là, mais je me suis dit, mais ça sert à rien, Gödel a montré ça et ça. Ils m'ont répondu, tu nous fais chier avec ton Gödel.
Oui, mais justement, on est typiquement dans les cas d'inertie où peut-être, justement, si on tient compte de ces exemples de paradis dans l'histoire, Il devient évident qu'il ne sert à rien de lutter contre. Là, si les esprits sont fermés, ils sont fermés. Donc la question qui va se poser, c'est encore une fois, c'est bon, très bien de dire que il faut une prise de conscience, mais la prise de conscience va pas venir par hasard. Elle va pas venir non plus, je dirais, par l'opération du. Enfin, ou alors si on croit au Saint-Esprit, c'est possible aussi. Dans ce cas-là, on est sur autre chose. Mais si on veut participer, disons, de ce changement de paradigme. Quelle méthode à mettre en œuvre individuellement, parce que autant tu dis effectivement il y a des problèmes globaux qu'on peut pas aborder ou qu'on voit pas comment aborder par changement de parti, mais j'ai quand même envie de te dire, moi ce qui me gêne un peu dans cette approche là, c'est d'oublier le fait que quand on parle de problèmes globaux, quand on parle de l'humanité, c'est quand même composé d'individus. Et certes, ils ne sont pas tous au même âge. D'abord, ils n'ont pas le même âge. Donc, ils sont pas forcément. Du fait même qu'ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas les mêmes connaissances. Là, je joue beaucoup dans les connaissances, bien entendu. Mais ils n'ont pas aussi les mêmes. Ils sont pas placés au même endroit, ils n'ont pas tous les mêmes capacités, etc. Que ce soit technologique, intellectuel, d'accès à l'information, de formation personnelle. Accéder à l'information ne suffit pas. Si on ne se forme pas, ça demande un effort aussi particulier. Mais quelle opération à faire pour l'individu qui, lui, aurait déjà établi cette prise de conscience pour pouvoir participer de ce changement de paradigme sans aller justement se heurter à la solution dont on voit les résultats quand elle se veut violente, c'est-à-dire vouloir imposer aux
Oui, bien
autres
sûr.
quelque chose pour lequel ils ne sont pas du tout préparés à ça, sur lesquels ils n'ont pas le. Ils sont pas établis là-dessus, ils vont pas faire l'effort du changement. Donc que faire?
Moi, je pense qu'il faut essayer de vivre au quotidien le plus possible hors des silos, hors des pyramides, hors de, justement de la société, de l'ancienne société cartésienne. Il faut essayer le plus souvent possible, on ne peut pas toujours s'y placer, mais le plus souvent possible, essayer de se placer hors de système pour doucement apprendre, apprendre à vivre avec, et puis pour faire des émules au fur et à mesure. C'est l'histoire de la forêt, quoi. Il faut planter des graines, je pense, espérer que dans quelques années, peut-être dans quelques décennies, ça fasse une forêt, et que la forêt le couvre la planète. Donc, je ne vois pas d'autres techniques. J'ai évoqué il y a quelques jours une autre piste, hein, qui était de passer par l'État.
Oui.
Alors, c'est paradoxal, parce que dans l'État, il y a des services comme l'éducation nationale qui sont transversaux déjà, qui ne sont pas liés à la monnaie, d'une certaine façon, puisque on ne payait pas directement, et ils sont déjà décentralisés d'une certaine façon, ces services. Mais ils sont organisés de façon centralisée, mais ils agissent de façon transversale sur la société. Donc, ils ont une approche qui est un peu comme le net, qui est là, qui sont un peu partout, avec leurs tentacules, si on veut. Il suffirait que ces services de l'État eux-mêmes se réforment et deviennent s'auto-organisent en quelque sorte, quittent la forme de silo, de la pyramide, du modèle cartésien, pour que peut-être un changement vienne d'un morceau de l'État. Donc, si j'ai pensé à ça, j'ai jamais pensé.
D'accord, donc ça c'est. Oui, alors ça, mais ça c'est un vœu pieux, parce que toi n'étant pas acteur de ces organisations-là, tu n'as pas de prise sur cette possibilité-là.
Aucune. J'en ai aucune et je vais pas me lancer en politique avec cet espoir-là. Mais je sens que il y a tellement de gens qui sont encore attirés par le combat politique traditionnel et qui à la fois de certains côtés comprennent. Il y a beaucoup de gens qui sont dans un paradoxe aujourd'hui. C'est que quand ils ont compris un peu les idées de complexité, mais ils disent face à ce changement du monde qui s'impose, il n'y a pas de courant unitaire. Tout le monde y va dispersé. Mais c'est normal qu'on y aille dispersé. Parce que justement, la complexité, il n'y a pas une seule réponse à la complexité. Il va y avoir beaucoup de réponses. Il va falloir faire beaucoup d'expériences et beaucoup d'essais. Il ne peut pas y avoir un langage commun pour tout le monde face à ça. Il peut y avoir une analyse commune à la fois, mais les solutions, il n'y en aura pas une. Elles seront plurielles, les solutions. Donc, il ne peut pas y avoir de mouvement unitaire. Donc, il y a des gens qui sont dans cette ambiguïté. Beaucoup, il y en a. Beaucoup. Il suffit de lire partout. Les gens qui sont les plus éveillés, souvent, ils ont ce désir d'être dans une église, dans un parti, malgré tout. Donc, pour ces gens qui n'arrivent pas à se défaire de cette idée-là, il y a peut-être un espoir de rentrer dans une forme de gouvernement pour essayer de réformer de l'intérieur et d'horizontaliser davantage les structures qui le sont déjà, en fait, dans les faits.
Oui, alors, concernant ce sujet-là, moi, je suis un peu dubitatif parce que j'ai quand même le sentiment que les politiques passent, mais l'État reste. C'est-à-dire que
Oui.
les politiques ne font aucun changement, en fait. C'est les gens qui sont en place qui décident des politiques. C'est pas du tout les gens pour qui on vote. On vote pour des généraux, mais dont l'armée, en fait, est totalement hors contrôle, en fait. C'est-à-dire que on croit qu'on vote pour des gens qui vont diriger l'État, alors qu'en fait, ce sont des gens qui sont des porte-parole de ce que veut l'État.
Oui, je suis assez d'accord. L'État est devenu en fait un système émergent qui a sa propre identité, sûrement aujourd'hui, et c'est vrai pour tous les États. Mais il y a une possibilité. Alors, je n'ai pas dit que je croyais qu'elle allait survenir, mais j'ai juste vu s'ouvrir une porte éventuelle qui n'est pas la mienne. Donc je préfère celle de la forêt, même si on est beaucoup plus seul dans cette forêt. On est seul dans cette forêt quand tu plantes ta graine. C'est pour ça que je trouve que le livre de L'homme qui plantait des arbres de Giono est génial. Et franchement, ce livre doit être lu et relu par tout le monde. C'est un tout petit livre de 15 pages,
ouais.
Qui est génial, parce qu'il montre comment un homme, en plantant tous les jours de sa vie quelques graines, finit par créer des forêts, par changer le climat de la région où il vit.
Oui, alors sauf que quand même, il faut quand même préciser que la forêt est célébrée, etc., alors qu'il est mort depuis longtemps. C'est-à-dire que là aussi, il a planté des graines sans voir lui-même le fruit de ce qu'il a,
Exactement. Donc c'est le problème. Mais je pense que si on commence... Je pense qu'il a été heureux, en fait. Et c'est ce que nous montre Giono. De vie qu'il a choisi de planter des graines avec une sorte de confiance et d'optimisme, ça l'a rendu heureux.
Oui, tout à fait.
Il a vécu vieux, heureux, et je crois que si on a, une fois qu'on a compris qu'il y avait des choses qui étaient plus positives ou plus harmonieuses pour le monde, si on les fait et si ça nous rend heureux, je pense qu'en fait c'est comme si déjà on vivait dans le monde auquel on aspirait.
Voilà,
je fais dire ça à Eratosthène vers la fin de sa vie, je lui fais dire ça, c'est que les Grecs n'ont pas accepté le monde grand et sphérique, mais lui, dans sa tête, il a vécu dans ce monde-là.
Oui, voilà, tout à fait. Donc là tu es en train de revenir justement à une méthode justement proche de l'individu, sans passer par le global, qui est de dire, j'ai compris à peu près ce qu'il faudrait faire, mais plutôt que d'attendre que justement tout le monde soit... en quelque sorte au courant.
Oui, attendre la révolution, le 14 juillet, attends, voilà. On va pas attendre ça.
Voilà, attendre plutôt que de se mettre en route directement, en fait, tout simplement.
Ouais,
voilà.
Ouais.
Alors évidemment, mais se mettre en route, tout simplement, mais effectivement, ça demande un minimum d'effort. Mais je crois que j'ai envie d'ajouter que si ça demande un minimum d'effort au départ, une fois que cet effort initial a été fait, les efforts à suivre sont plus faciles, je veux dire.
Oui, mais si je pense que moi, je ne crois pas que les gens soient masochistes. Si on leur dit juste que ça va être difficile, ça va être difficile au début, je pense que si de suite on leur dit ils essayent, et dès qu'ils essayent un petit peu, ils en tirent quelque chose pour eux, en fait un égoïste presque, ils en tirent un bénéfice pour eux, qui est juste même, rien que ça peut être juste de la joie, du bonheur, etc., des choses qui ne sont même pas quantifiables, s'ils en tirent des bénéfices comme ça, ça va les encourager à aller plus loin. Il faut surtout que les gens comprennent que changer de paradigme de tout de suite, en fait, c'est une façon d'être heureux tout de suite et plus heureux qu'en restant dans l'ancien où on sent qu'on n'est pas bien.
Oui, tout à fait. Alors, par rapport à ça, alors, est-ce que tu as vu peut-être dernièrement le dernier billet ou un des derniers billets de Philippe Scofoni qui s'est justement mis, à rejoindre la communauté YouCoin?
Ouais.
Tu l'as vu ce poste?
Non, j'ai pas vu son billet. J'ai vu qu'il avait rejoint, mais je l'ai pas lu.
Et toi-même, est-ce que tu comptes rejoindre une monnaie libre ou...
Oui, il faut que je le fasse. Je sais que je dis toujours, oui, mais YouCoin, c'est très bien de le faire. Il faut le faire, mais je le fais pas parce qu'en fait, j'échange très peu en fait au final.
Ouais,
j'échange super peu et j'essaye en fait d'utiliser le moins possible la monnaie aujourd'hui.
Oui. Alors là aussi, c'est une façon finalement de s'en...
Alors je l'utilise, je dis pas que je l'utilise pas, mais c'est vrai, ok, j'ai acheté une Apple Watch, mais comme je le dis, c'est juste pour voir qu'est-ce que c'est. Pour moi, c'est important de savoir ce qu'il faut. C'est fou. Les gens qui veulent nous contrôler, c'est important de savoir. Donc j'utilise ce prétexte pour me payer des gadgets. Mais en fait, je dépense très peu d'argent pour tout ça.
Ouais. Donc alors en tout cas, pour ceux qui nous écoutent. On est le 5 mai 2015, il y aura les Freedom Money Meeting, 5e édition, du 4 au 7 juin. Hein, voilà, donc pour aller planter des graines, c'est pas mal. Donc 2 jours pour les développeurs, si vous n'êtes pas développeur, les 4 et 5 juin, c'est plutôt orienté développeur. Et les 6 et 7, ouverts à tous les contributeurs qui souhaitent. Le jeu La Corbeille, excellente façon là aussi de planter des graines.
Le jeu est super. Moi, chaque fois que j'ai vu jouer, les gens qui sont là comprennent beaucoup de choses.
Ah, on comprend d'un coup et ça fait réfléchir. Surtout que maintenant, on a augmenté le jeu avec Sybille. Depuis qu'elle est passée sur l'émission, on a beaucoup travaillé pour améliorer ce jeu. On peut le jouer maintenant sur 80 ans et plus. C'est-à-dire qu'on a inclus la dimension temporelle avec chaque tour. Ben, simplement des joueurs qui meurent et puis des joueurs qui naissent. Voilà. Donc, ce qui permet aussi de voir... Ce qu'on voit pas d'habitude, justement, c'est à très long terme le fait de de faire une petite nuisance finit par s'accumuler et finit par créer de grosses nuisances. Voilà.
Ouais.
Donc ce qu'on ne voit pas forcément, bien sûr, quand on réfléchit simplement dans l'instant, aux 6 mois qui viennent ou à l'année qui vient, et qu'on ne voit pas les effets à long terme de nos actes et du choix du système monétaire que l'on fait. Voilà, donc ce jeu est quand même super, qu'il faut continuer à travailler, à améliorer. On a travaillé d'ailleurs dernièrement avec Sibyl pour encore améliorer le jeu. On va le rendre encore plus compact et avec beaucoup plus de sens, encore une fois, sur les valeurs économiques. On va éliminer justement un facteur et pour le rendre plus dense, en fait. Il sera plus dense. Bon, bref. Et puis le 7 juin, il y a aussi la participation pour les contributeurs qui souhaitent là aussi contribuer aux monnaies libres et notamment au projet YouCoin. Ou à des projets similaires, à s'impliquer, même s'ils ne sont pas forcément des techniciens, des informaticiens.
Mais tu sais, c'est pas évident d'aller. Je suis allé plusieurs fois, j'ai dit, je vais créer un compte, mais c'est pas évident de débarquer sur YouCoin et de créer son compte.
Non, bien sûr, il y a encore beaucoup de travail. Hein.
Ouais,
pour l'instant, il y a encore.
Moi, c'est pas que je suis.
Non.
Que je le fasse et je m'arrête à la procédure, si tu veux.
Non, mais il y a encore du travail pour le rendre plus simple, ouais. Etc. Ça n'est qu'au tout début. Hein. C'est déjà beau qu'il y ait un client graphique. Hein.
Ouais.
C'est un projet informatique qui est lourd et sur lequel il y a encore très peu de contributeurs. Hein. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont aussi. Il y a peu de soutien et puis peu de contributeurs, mais c'est pas grave. Ça, c'est quand on plante les premières graines, on n'attend pas que l'arbre pousse en 3 jours.
Non, mais il faut chacun on plante les graines là aussi où on se sent le plus compétent aussi. Et c'est ça qui est important.
Voilà.
C'est qu'il n'y a pas une route unique.
Il n'y a pas de changement. Et puis il faut savoir aussi que parfois le fait de rajouter du monde rend pas forcément un projet plus rapide. Hein. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on met deux fois plus d'hommes sur un projet qu'il ira deux fois plus vite.
C'est la méthode cartésienne, elle croit ça.
Ah oui, alors
c'est pas la vérité, c'est pas la panacée.
Ça c'est faux. Hein. Alors il y a des choses où c'est bien d'avoir plusieurs hommes, mais il y a des limites aussi au nombre d'hommes nécessaires. Bon, ceci dit, le projet YouCoin serait ravi d'avoir plus de contributeurs informaticiens, mais on ne peut pas forcer quiconque dans un projet libre, hein, de toute façon.
Bien sûr.
Il faut... Donc là aussi, ça passe aussi, bien sûr, par, moi je pense aussi, par simplement l'enseignement. C'est-à-dire que les révolutions physiques aussi, comme tu disais, notamment pour la révolution de Galilée, et peut-être on finira par ça, elles passent aussi d'abord par une révolution mentale, avant d'avoir des applications pratiques. C'est-à-dire que les gens s'en moquaient de savoir que la Terre tournait sur elle-même autour du Soleil, ça n'avait aucun impact. Et ça n'a eu aucun impact, jamais, jusqu'à qu'on puisse envoyer des fusées dans l'espace. Voilà, c'est-à-dire que ça ne jouait pas du tout sur la vie.
Sur le quotidien, oui.
Voilà, sur le quotidien. Et ça donc il y a eu d'abord la compréhension intellectuelle avant la mise en œuvre pratique. Voilà, c'est pour ça que théoriser, c'est bien au début, mais ça n'empêche pas qu'après, in fine, c'est la pratique qui a du sens.
Ouais, c'est pour ça aussi que j'ai tendance à raconter des histoires, puisque faire de la théorie, c'est écrire des romans, parce que je me dis qu'en passant par des histoires, c'est une façon d'anticiper l'histoire, en fait, c'est de simuler des histoires.
Voilà. Oui, donc il faut aussi raconter, ça fait partie du... C'est pour ça que les grands anciens avaient très bien compris ça, ils racontaient des histoires auprès du feu aussi.
Hein ouais. ça fait sur le net un peu.
Oui, mais c'est aussi comme ça qu'on comprend des choses. Hein. Les conteurs souvent cachent des messages dans leur roman. Hein. Il y a des vrais messages. Quand Jules Verne fait L'île mystérieuse, il en profite pour nous expliquer plein d'astuces scientifiques pour faire plein de trucs sympas. Comment planter du blé avec peu de graines, qu'au savoir que ça, d'année en année, ça peut monter à un niveau exponentiel, et à la fin, ils arrivent à se faire du pain, ils arrivent à se faire même un télégraphe sur l'île, avec de l'électricité, c'est tout à fait extraordinaire. Voilà, ben merci beaucoup Thierry.
Merci à toi.
Pour cette émission, donc spéciale changement de paradigme, et puis ben, on te donne rendez-vous pour de nouvelles aventures ben, plus tard, quoi.
Ouais. Oh. Bye bye.
Au revoir Thierry, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous laisse donc avec notre générique fétiche sur Monnaie Libre, No More Dreams, The Nighter. Au revoir.